Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire et plus par Sylvie et Karina. Bonjour Sylvie.
Bonjour Karina.
Alors Sylvie, au sommaire de cette locale du mercredi 12 mai.
Et bonjour à toutes et tous. Marie-Cécile Méallier, animatrice nature à la LPO, nous parlera de son projet d'aménagement de l'étang de Bachassier à Chabeuil. Et ensuite, nous aurons deux invités aujourd'hui. Pierre Aymon, vice-président de AF3V, Association française pour le développement des véloroutes et voies routes. Et puis quelques infos et brèves locales. Et toujours la bonne nouvelle, bien entendu, pour terminer cette locale.
Et on commence donc par Marie-Cécile Méallier de la LPO qui s'est lancée dans un projet d'envergure il y a déjà plusieurs années, sans réaliser peut-être le temps que ça prendrait, mais finalement c'est presque terminé, on l'écoute. Bonjour Marie-Cécile.
Bonjour Karina.
Alors, tu es sur notre antenne aujourd'hui pour nous parler d'un projet que tu mets en œuvre depuis un moment maintenant et qui touche presque à sa fin. C'est quoi ce projet ?
Alors, c'est un projet d'aménagement qui est en lien avec l'éducation à l'environnement et qui a démarré en 2017, alors que je faisais ma formation pour devenir animatrice nature. Donc j'ai fait un BPJEPS, un brevet d'éducation de la jeunesse et du sport, d'éducation populaire et du sport, avec une spécialité éducation à l'environnement vers un développement durable. Voilà, c'est très pompeux comme... c'est un grand nombre de diplômes, mais pour dire que ça m'a préparé au métier d'animatrice. Et donc depuis, je travaille à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Il y a une antenne à Chabeuil. Voilà, Drôme-Ardèche. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de ma formation et de mon stage, j'avais à mettre en place un aménagement qui permette au public de faire en quelque sorte de l'éducation à l'environnement, mais sans que je sois présente.
Donc aménager un espace naturel pour accueillir du public.
Alors ça aurait pu être plein d'autres choses. Moi j'ai choisi ça parce que la mairie de Chabeuil à l'époque voulait mettre en valeur une mare sur un ENS, donc un espace naturel sensible qui est à Bachassier. Donc c'est un quartier de Chabeuil. Et donc j'ai rencontré l'élu à l'environnement qui m'a. Voilà, on a échangé sur ce projet, je lui ai présenté ce que je pouvais faire et il était emballé. Donc, ça a démarré comme ça.
Et c'est quoi qui était prévu alors à ce moment-là, c'est dans ton projet ?
Alors dans mon projet, donc il y avait cette fameuse mare, les gens passaient devant, et puis c'était un petit peu ouvert, et il y a des personnes qui allaient se promener tout près de la mare, il y a des chiens qui allaient dans l'eau, et en fait c'est un espace où il y a des espèces nicheuses, des oiseaux notamment, des amphibiens qu'il ne faut pas déranger à certaines époques. Du coup, l'idée c'était de fermer cet espace ouvert et de le rendre accueillant quand même. De le rendre accueillant et de mettre en valeur la mare, c'est-à-dire qu'au contraire, c'était inviter les gens à aller au bord de cette mare, mais
pas
en
dedans.
En protégeant la biodiversité qui a élu domicile ici. Quoi.
Donc ça, c'était en 2017. Et ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ?
Alors, comme c'est un ENS, il y a un plan de gestion, c'est un ENS qui appartient à la municipalité, qui est géré par la municipalité, par la LPO et par d'autres acteurs. Et il fallait que tout le monde se mette d'accord, soit OK avec ce projet-là. Donc j'ai été le présenter au comité de gestion, Après, il fallait que ça passe au niveau financement, etc. Et donc, on a démarré ça seulement l'année dernière, en février. On a commencé en mettant la palissade et puis les barrières tout autour pour donc fermer l'espace. Et la palissade, on a fait des trous dedans pour que les gens puissent quand même observer la mare, pour inviter en fait les gens à observer la mare. C'est là où c'est un aménagement en autonomie, c'est que il n'y a pas de panneau, mais à l'entrée, il y a une porte en forme d'arche qui en gros invite les gens à rentrer. Et après, on se retrouve avec cette palissade avec des trous, donc on a envie de regarder par les trous.
Donc ça, c'était la première étape, mettre une palissade autour. Et ensuite, qu'est-ce qui était prévu d'autre ?
Et le deuxième chantier, c'était pour que ce soit accueillant, c'était d'essayer de mettre des assises, en fait. Des, moi, j'appelais ça des assises. Du coup, ma collègue à la LPO a appelé ça un salon.
Un salon extérieur.
Voilà. Et donc, c'était un chantier, c'était sous forme de chantier coopératif où, normalement, c'était avec des bénévoles. Finalement, on a pu en avoir quelques-uns, mais en limitant avec le Covid. Mmh. Du coup, c'est les bénévoles qui étaient là, qui ont choisi ensemble qu'est-ce qu'ils voulaient réaliser comme assises pour rendre l'espace accueillant et sympa. Il y a quand même une spécificité à ce projet-là, c'est que, à part la barrière et la palissade, c'est de la brande de bruyère. Donc, en fait, c'est de la bruyère tressée. C'est un matériel, du coup, très naturel, qui a été produit en France, qui a une durée de vie... Bon, on a vu que déjà, c'était un petit peu... ça s'était déjà un petit peu abîmé. Mais en tout cas, l'idée, c'était que ça se fonde vraiment dans le paysage, que ça ne fasse pas un gros bloc. Et du coup, toutes les assises, on les a réalisées avec des éléments qu'on a trouvés dans l'espace naturel.
D'accord, donc c'est des chaises, des chaises longues avec du bois ?
Voilà, la seule chose qu'on a ramené, c'est des fers à béton, parce que dans le projet, il y a quand même, un artiste local qui est sculpteur, qui est venu nous donner un coup de main, et qui nous a proposé de faire une arche avec des fers à béton. Donc on a juste planté des fers à béton, je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais d'un côté et de l'autre du banc. Et en fait, après, on les a tressés entre eux avec de l'osier qu'on a trouvé sur le site. Donc ça... Et ça fait une espèce de petite ombrelle, je ne sais pas trop comment dire, un petit abri tout à fait nature et qui se fond bien dans le paysage. Dessous, il y a un gros banc, c'est un gros tronc qu'on avait repéré sur le terrain et du coup, la service technique nous a apporté. Donc là, notre collègue Yann Dumas, il s'appelle, qui fait de la sculpture. Il a taillé l'arbre, en fait, pour que ça fasse un peu comme un banc. Il a mis des espèces de pieds dessous, enfin, voilà. Et puis après, nous, on a disposé certaines bûches à d'autres endroits. On a fait le tressage. On a tout récupéré sur place, quoi. Donc ça, c'était sympa. C'était vraiment aussi un des trucs du projet, de déjà utiliser des matériaux locaux. On n'a pas tombé des arbres. Tous les arbres qu'on a pris, c'est des arbres qui avaient été tombés par les services techniques pour nettoyer l'espace. Et puis, en même temps, déjà de récupérer du matériel local et de montrer aux gens que c'était possible de faire aussi avec autre chose que du plastique, en quelque sorte. Mmh.
Ça donne et envie d'aller voir.
Ah, c'est bien ça.
Est-ce que pour toi, c'est mission accomplie, du coup ?
Alors, je pense, du coup, il me restait un troisième chantier à faire que, pareil, j'ai pas pu faire à cause du virus, mais qui va se faire avec une de mes collègues, qui va se faire au mois de juillet, début juillet, les enfants, cette fois, on va faire participer les enfants, parce que l'idée, c'était aussi que les gens de la commune investissent le lieu, que ce soit eux qui le créent. Alors, finalement, on a eu peu de bénévoles, j'ai pas pu faire beaucoup de communication pour regrouper des gens, parce que, voilà... Comme tout le monde, on avait des limites. Mais normalement, le dernier chantier sera fait par des enfants de la commune. Et c'est pareil, c'est pour embellir le lieu, donc en faisant du land art, de la création artistique en lien avec la biodiversité qui est présente sur le site. Et du coup, de donner un petit charme supplémentaire au lieu et d'inspirer les gens qui passent, en fait, en leur montrant tout ce qu'on peut faire de chouette avec deux mains et des éléments qu'on trouve dans la nature.
Donc mélange écologie et artistique, voilà. Aussi, quoi.
Voilà.
Génial. Et
Donc ça, ce sera en juillet, normalement.
D'accord. Et cet espace pour aller s'y promener, où est-ce qu'il se trouve? Et c'est libre d'accès, j'imagine,
Alors, c'est libre d'accès. Quand on est à Chabeuil, il y a un petit tunnel d'ailleurs qui vaut le détour aussi, parce que j'ai bossé dessus avec une classe de l'école de Chabeuil aussi. Et on a fait de la peinture avec une artiste illustratrice il y a 2 ans. On a dessiné des animaux sauvages dans un petit tunnel piétonnier. En fait, quand on est dans la ville, il y a un petit tunnel piétonnier qui passe sous la grande route et qui mène à la zone de Bachassier.
Et quel genre d'espèce est-ce qu'on peut espérer apercevoir?
Alors, ça va surtout être des oiseaux, parce que les animaux, nous, on a dessiné plein d'animaux différents, mais ce n'est pas des animaux qu'on voit facilement, parce qu'on a dessiné le renard, le blaireau, le hérisson, ce n'est pas des animaux qu'on croise comme ça, quand on se balade, quoi. Enfin, c'est rare. Et sur le même site, il y a un sentier qui a été fait par un de mes collègues il y a 2 ans, qui s'appelle le Sentier des deux renards, qui est un sentier pédagogique avec des QR codes. Et ceux qui ont envie effectivement de voir le chantier avant même d'y aller, sur le site de la LPO, on peut le voir, il y a des photos.
Ah, génial.
Voilà, donc sur le site de la LPO Drôme Ardèche, il y a un onglet actualité. Et le 30 mars, il y a écrit création d'un salon nature à Bachassier.
Et on peut voir ces constructions
Voilà, on peut voir 1 ou 2 photos de notre construction. Et puis, une fois que vous êtes sur le site de la LPO, profitez-en, il y a une boîte à outils qui est super bien remplie, avec plein de nichoirs, plein de mangeoires, des photos, des gîtes, plein d'idées en fait pour aménager son jardin, pour accueillir la biodiversité. Donc une fois qu'on est là-bas, on peut aller voir un petit coup du côté de la boîte à outils, elle est sympa.
Superbe, merci beaucoup Marie-Cécile.
Je t'en prie.
Et retour aux informations après cette balade rafraîchissante. Une info un peu tristouille, mais qui ne va pas étonner qui que ce soit. Annulation des fêtes du Rhône à Bourg-lès-Valences. Nos fêtes du Rhône annuelles, donc pas de joute, pas de fête du Rhône cette année. Mais par contre, la mairie souhaite maintenir la fête foraine au cœur de ville. Bon. Rendez-vous donc en juillet 2022 pour des vraies fêtes du Rhône. La Cordo remet le son les 1er et 2 juin. La cordonnerie à Romans-sur-Isère, vous le savez, c'est la partie salle de musique actuelle, notamment de la Cité de la Musique. Remet le son donc les 1er et 2 juin pour le concert création en hommage à Leonard Cohen avec H. Burns à la voix et l'Orchestre symphonique de Romans à la musique. Un beau moment à déguster. Par contre, pour des raisons d'organisation de tournée, le spectacle Entrée dans la couleur par Alain Damasio et Yves Péchin, prévu le 22 mai, est reporté sur la saison 2021-2022. Mais les activités continuent à la Cordo avec la résidence du groupe rap Pharon, le workshop SACEM et la fin des ateliers slam pour les lycéens et lycéennes du lycée Notre-Dame-des-Champs. Voilà tout ce qui se passe à la cordonnerie, même quand on est, qu'on soit confiné ou en passe d'être déconfiné. Oui.
Merci beaucoup Sylvie. Et les 13 et 20 juin prochains auront lieu les élections départementales et régionales. Et à cette occasion, l'Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes, AF3V, propose aux candidats et candidates 10 engagements concrets pour améliorer le réseau des voies vertes et favoriser la pratique du vélo ou vélo-taf aussi. Et on en parle justement avec Pierre Aymon, qui est le vice-président de l'association. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Eh bien, écoutez, je vais très bien, si je puis me permettre une petite précision. Oui. Les élections est décalé. Ce n'est plus le 13 et le 20 juin, mais le 20 et le 27 juin.
Ah bah merci beaucoup, effectivement, c'est une précision très importante. Peut-être pour commencer, quelle est donc cette association des véloroutes et voies vertes et qu'est-ce que c'est qu'une véloroute et une voie verte ?
Oui, merci. Eh bien, cette association, l'Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes, a été fondée en 1997, donc elle a déjà une jolie petite expérience. Et elle fait beaucoup la promotion des véloroutes donc, et des voies vertes. Les véloroutes sont des itinéraires simples en France, des itinéraires vélos qui peuvent prendre plein de petites routes, parfois en itinéraire partagé, mais avec très peu de circulation automobile et qui mixent avec des voies vertes. Les voies vertes, ce sont souvent des emprises sur des anciennes voies SNCF. Vous en avez beaucoup auprès de chez vous. Ça peut être la Via Rona, ça peut être la Via Flavia,
celle
qui remonte. Voilà, la Via Dolcia, etc. Voilà, et tous ces itinéraires-là, qui sont surtout consacrés au vélotourisme et des choses comme ça, on pense que bien entretenus, il pourrait aussi servir pour les déplacements du quotidien, pour les gens qui vont travailler, le vélo taf, d'autant plus qu'avec l'explosion, je dirais, du vélo assistance électrique, faire 10 ou 12 km pour aller au boulot, ça devient possible, en tout cas entre 5 et 10, encore très très possible. Donc on aimerait que ces réseaux-là soient intégrés dans des schémas régionaux vélo ou locaux et qu'ils soient entretenu pour que ça le permette, que ce soit pas boueux dès qu'il y a de la pluie, par exemple. Et donc, voilà ce sur quoi on interpelle les candidats au régional, puisqu'ils sont en charge du schéma vélo régional et de financer, et les candidats au départemental, qui sont en charge de faire réaliser ces infrastructures, non pas routières, mais ces infrastructures véloroutières. Et on a cette chance en France d'avoir beaucoup de petites routes qui peuvent être tout à fait utilisées aussi à ça.
Et vous leur proposez donc 10 engagements à ces candidats et candidates au régional. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples ?
Oui, un des exemples les plus importants, c'est de favoriser la sécurité et l'accessibilité, c'est-à-dire d'enlever les barrières ou les potelets qui vont gêner la circulation des vélos avec remorque, qui vont surtout freiner l'accès des personnes en situation de handicap. Et puis on travaille aussi sur l'accessibilité, le revêtement. Nous, on souhaite un revêtement lisse en enrobé bitumineux qui, c'est contre-intuitif, mais beaucoup moins, je dirais, polluant et un bilan écolo bien meilleur que le stabilisé qui s'abîme à la première pluie ou des choses comme ça. Et puis qui permet aussi aux personnes en situation de handicap, aux personnes qui font du relais, de circuler aussi. J'insiste là-dessus parce que l'Association des paralysés de France, France Handicap, la Fédération française de relais, la Fédération française de cyclotourisme, France Nature Environnement, beaucoup d'associations soutiennent notre campagne qu'on retrouve sur notre site Voie Verte Vélo Taf. af3v.org, sur lequel on peut soutenir. Les autres engagements, eh bien, c'est s'engager à l'entretien, à préserver la biodiversité, c'est s'engager à aussi favoriser les programmes que porte l'AF3V sur l'inclusion sociale, c'est-à-dire que les voies vertes sont des lieux parfaits d'expérimentation pour l'apprentissage du vélo, pour des publics précaires et qui pourraient, s'ils savaient faire du vélo, se rendre à un travail en vélo, puisqu'on sait que 25% des emplois sont aujourd'hui refusés pour des questions de déplacement, et très souvent, pour des distances courtes, le mieux, c'est le vélo, et puis ça coûte tellement, tellement, tellement moins cher que d'acheter une voiture pour laquelle il faut payer l'assurance, payer du carburant, payer l'entretien.
Oui, c'est sûr. Et je vois votre proposition numéro 6, généraliser la priorité donnée aux piétons et aux cyclistes. Ça voudrait dire que les cyclistes passent en premier avant les voitures au croisement ?
Ben, ça veut dire qu'au croisement, pour les piétons et pour les cyclistes, oui, ça voudrait dire qu'il y aurait plutôt dans certains croisements des stops pour les voitures et pour que les piétons puissent passer. Ben, de même que quand il y a un passage piéton, c'est les piétons qui ont la priorité. Donc c'est ça qu'on demande que soit mis en place, quoi, qu'il y ait des passages piétons et que les cyclistes puissent passer aussi, comme on a en beaucoup d'endroits. Hein, ça existe pas mal déjà, mais on voudrait que ce soit des règles qui se généralisent.
Et vous demandez aussi de soutenir le projet Vélo Express. Qu'est-ce que c'est que ce projet ?
Alors voilà, c'est ce dont je parlais, notre 10e engagement. Soutenir le Vélo Express, c'est soutenir tout notre programme, on travaille pour ça avec, avec par exemple la Fondation Massif qui nous soutient. On soutient des programmes d'apprentissage du vélo pour des personnes en précarité sociale qui ont besoin du vélo pour réussir une autonomie de déplacement. Voilà. Vous avez beaucoup de femmes, de jeunes, de publics précaires qui ne savent pas forcément faire du vélo, qui ont besoin de réapprendre.
Oui, c'est impressionnant de monter sur un vélo quand on ne sait pas en faire, et puis ça fait peur aussi.
Voilà, donc c'est vraiment un apprentissage. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que le gouvernement soutient les vélo-écoles. Mais au-delà des vélo-écoles pour les enfants et tout ça, nous soutenons vraiment des programmes pour des personnes. Hier, il y avait un article dans la presse, justement, sur l'expérience qu'on porte à Bordeaux, où il y avait un témoignage d'une femme de 49 ans qui disait, ben voilà, j'ai pas fait de vélo depuis 45 ans, je réapprends, et peu à peu, il faut plusieurs heures et plusieurs cours pour réapprendre l'autonomie à vélo. Et puis, au-delà de l'autonomie, apprendre à se déplacer en vélo dans une ville ou entre deux villes, ou dans le périurbain ou dans le rural, avec des règles spécifiques à respecter. Sinon, c'est pas sérieux de lancer des gens qui ne connaissent pas. Voilà.
Et par rapport donc à ces propositions, est-ce que vous avez déjà eu des réponses de candidats ou de candidates ?
Alors, on a déjà eu des réponses de candidats et de candidates. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu les candidats écolos qui nous ont soutenus. On attend des retours. Moi, j'attends un retour des candidats de la gauche. J'en ai pas eu. J'attends un retour de l'équipe de La République En Marche. Puis dans d'autres régions aussi, on a eu, c'est varié, de la France Insoumise, de différentes équipes. Quoi. Ça vient petit à petit. Puis on interpelle aussi les candidats au cantonal. Ça démarre juste parce que les candidatures viennent d'être déposées. Mais ça le fait, par exemple, en Haute-Garonne, on a toute la liste de gauche qui nous soutient, qui témoigne. Et quand les gens nous soutiennent et témoignent, on l'a beaucoup fait par les réseaux sociaux, et ben on publie sur notre site voievertevelotaf.afv.org. On publie leur nom avec la phrase clé et on fait circuler sur les réseaux sociaux le soutien. Quoi. Et puis ça nous permettra surtout, une fois qu'ils seront élus, ces gens-là, de retourner les voir et leur dire, ben voilà, vous avez pris 10 engagements, comment est-ce qu'on travaille ensemble, etc. Et puis ils aiment bien, puis on voit bien l'expertise de la F3V, les aides.
Et vous êtes dans le train, pas sur votre vélo apparemment, Pierre.
Eh bien, je suis dans le train parce que je me rends en Normandie, justement. Je suis dans le train pour aller faire la vélo française, c'est-à-dire aller faire 650 km de vélo en itinérance par 70% de voies vertes.
Waouh, c'est sur combien de temps ?
Bon, ben, je fais sur 10 ou 12 jours, voilà.
D'accord.
Mais parce que j'ai déjà fait toutes les magnifiques voies vertes de notre très belle région.
Mais justement, je voulais en parler avec vous des voies vertes parce qu'il commence à faire beau. On a des envies de sortie le week-end ou même de prévoir des vacances. Est-ce que vous auriez des conseils sur dans la Drôme sur des trajets qui pourraient être chouettes à faire à vélo ?
Ben dans la Drôme, vous en avez une, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Vélodrome, mais celle qui va. Qui part du Rhône et qui remonte jusqu'à Romans-sur-Isère et au-delà, qui est magnifique. Et puis de l'autre côté, si les Drômois supportent d'aller en Ardèche, il y en a aussi des superbes en Ardèche, hein, toutes celles qui remontent la vallée de l'Erieux. Voilà, et puis plus haut encore, c'est qui rejoint le Rhône, je ne sais plus où, là, la Via Fluvia. Enfin voilà, il y a des tas d'endroits qui se développent très bien. Il y a vraiment de très très beaux circuits à faire.
Est-ce que la Via Rhôna, vous l'avez faite ?
Je l'ai faite déjà deux fois au moins, oui.
Et elle nous permet donc, c'est bien ça, d'aller jusqu'à Marseille d'un côté et jusqu'à à la
Alors,
Suisse,
c'est Genève pas, c'est pas jusqu'à Marseille, c'est jusqu'à Sète, Montpellier, et jusqu'à Genève. Il y a des passages pas faciles. Je vous avoue que la traversée de Valence, je ne dis pas forcément bravo au maire de Valence, mais c'est bien mieux qu'en PACA. Et il y a des endroits absolument magnifiques, hein, que ce soit en Rhône-Alpes, que ce soit plus au nord. C'est vraiment. Et puis, c'est pour, dans beaucoup d'endroits sécurisés, mais quelque chose qu'on peut faire en famille. Hein. Mmh. Et pouvoir voilà, se promener en famille, itinérance ou pas, hein, sur une journée ou sur trois jours, avec les gamins, faire du vélo. C'est étudié aussi pour ça, que ce genre de. Voilà. C'est super à faire. Puis ça fait de l'activité physique.
Et oui, on en a bien besoin, surtout en ce moment.
Voilà, tout à fait. Non, c'est vraiment. Et puis, quand il fait très très chaud, comme il y a la masse d'air du Rhône, il fait toujours frais, ou quand on monte dans les montagnes d'Ardèche, il fait frais, ou quand on remonte ben, voilà, dans la vallée de l'Isère, voilà, c'est magnifique. On a une région magnifique pour le vélo et des voies vertes superbes.
Et donc on vous entend de votre train partir en balade à vélo pour plusieurs jours. Quel rôle joue le vélo dans votre vie ?
Dans ma vie, il a été un instrument utilitaire. Tant que j'avais une activité professionnelle, il me servait. Et puis il me servait aussi pour les loisirs ou pour, je dirais, entre guillemets, aller acheter le pain, même s'il y allait à pied, mais c'est pour ça que je m'en fous. Et puis là, c'est pour moi un mode de vacances très agréable, douce, et une manière de découvrir son pays ou d'autres pays. Hein. Je suis allé en Allemagne, je suis allé en Italie, descendre le Pau. C'est une manière douce de découvrir un pays, de voir des paysages qu'on voit différemment en voiture, différemment qu'à pied, même si j'aime aussi beaucoup le faire à pied.
Sylvie, tu avais une question ?
Oui, bonjour Sylvie. Vous avez parlé des ronds-points, etc., etc. Et on sait qu'il existe un permis de conduire avec un code de la route. Est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être judicieux, au moins, de peut-être pas de mettre en place un permis de rouler à vélo, mais au moins quelques... Voilà, que les gens qui roulent en ville notamment aient quand même quelques notions, qu'on leur donne quelques notions du code de la route et de comment vivre justement la route à plusieurs.
Eh bien écoutez, si les gens font du vélo à vie en ville et s'ils veulent survivre, ça veut dire qu'ils ont déjà de très très bonnes notions. Peut-être qu'il serait très important de dire aux gens qui ont passé le permis de conduire il y a 30 ou 40 ans, de leur expliquer que le code de la route a changé, qu'il y a des nouveaux panneaux, les panneaux M12 qui permettent aux vélos de passer au feu rouge pour tourner à droite, voire pour aller tout droit. Apprendre aux gens qui se déplacent en voiture que le vélo est prioritaire.
On vous a pas entendu. On a entendu le vélo est prioritaire et ça a coupé. Allô ? On ne vous entend plus dans votre train, Pierre. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous ? Ah, bon.
Je crois que le train a eu raison du vélo.
Et de notre connexion téléphonique. En tout cas, si vous voulez donc avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet de AF3V. C'est af3v.org, association donc pour le développement des véloroutes et des voies vertes. Et pourquoi pas prévoir peut-être un itinéraire de vacances pour cet été ou pour un week-end. Ça fait toujours du bien. Pierre, on vous a récupéré, ça a coupé. Ah non, on vous entend vraiment définitivement plus. Je suis désolée, mais on vous entend plus, on va devoir raccrocher. Bon, je vous souhaite une très bonne journée si jamais vous nous entendez. Et merci d'avoir été là.
Après le train, on va rester dans les chemins. Nous avions accueilli Sandrine Stadler-Meyer pour nous parler de l'évolution du rendez-vous Chemin de peintre, devenu Chemin des artistes. Alors que vous le fassiez à pied, en vélo ou en voiture, qu'importe, l'important c'est de le faire. Sachez qu'il reste des places dans les petites communes de notre agglomération. Alors vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Si vous êtes artiste amateur ou professionnel, eh bien vous pourrez exposer vos créations les 9 et 10 octobre prochains dans près de 30 communes de l'agglo. Que vous soyez peintre, sculpteur, dessinateur, dessinatrice, photographe, créateur ou créatrice en art numérique, etc., cet événement est fait pour vous. En effet, Chemin des artistes propose le temps d'un week-end, un circuit artistique à la découverte des artistes professionnels et amateurs du territoire. Et il faut savoir qu'en 13 ans, ce sont plus de 15 000 visiteurs accueillis sur 2 jours. Donc c'est quand même une jolie jauge, une belle visibilité donc et l'occasion aussi de rencontrer le public, voire de partager même avec eux votre passion et savoir-faire à travers des animations, ateliers et démonstrations selon les communes sur lesquelles vous serez. Alors pour vous inscrire, c'est très simple et c'est gratuit. Vous vous connectez à Chemin des artistes tout attaché. valenceromanaglo, tout attaché, .fr. chemindesartistes.valenceromanaglo.fr. Vous créez votre profil artiste et vous candidatez auprès de la commune de votre choix. Alors, sachez qu'il reste des places à Barbière, Beauregard-Barret, Beauvallon, Bézaille, Charpais, Château-Double, Châteauneuf-sur-Isère, Châtillon-Saint-Jean, Clérieux, Crépol, Émeu, Austin, Jaillon, La Baume d'Austin, Le Chalon, Perru, Rochefort-Sanson, Saint-Bardoux, Saint-Paul-les-Romans, Saint-Vincent-la-Commanderie, et Valherbasse. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er juillet. Alors n'hésitez pas, courez vers vos claviers pour vous inscrire. Et en plus, ce sont toutes les communes dont on vient de parler. Ce sont de très jolies petites communes. Ce sont des jolies balades aussi à faire, même si les voies vertes n'y passent pas. Elles deviennent vertes de fait. Et puis une autre petite info, elles sont de Pisançon et Châteauneuf-sur-Isère, c'est Gaëlle et Steph qui sont candidates pour Pékin Express 2022. Alors si vous voulez les soutenir, vous pouvez aller découvrir leurs vidéos de présentation sur YouTube, vous tapez Pékin Express 2022, les nounous qui déchirent, et vous pourrez les soutenir et on les aura en studio d'ici quelques temps.
Ouais, c'est un beau projet, merci Sylvie. C'est l'heure de la bonne nouvelle du jour. On n'a que deux invités aujourd'hui. L'émission est un petit peu plus courte. Mais voilà, ça nous laisse le temps de parler avec Oscar qui est avec nous par téléphone. Bonjour Oscar.
Bonjour Karina, bonjour Sylvie.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va, impeccable.
Super. Alors on te laisse nous partager ta bonne nouvelle du jour.
Oui, du coup, la bonne nouvelle, c'est une innovation. C'est en France, c'est à Strasbourg. C'est un immeuble entre guillemets futuriste, dont le toit est équipé de 400 m² de surface photovoltaïque. Et en plus de ça, chaque logement est équipé également de persiennes composées de cellules photovoltaïques. Le résultat, il est bluffant. L'immeuble est capable de produire 104% de ses besoins en électricité. Les habitants ne payent donc plus leur électricité et certains reçoivent même des factures négatives.
Yes, super, c'est ça, c'est une bonne nouvelle, les factures négatives aussi. Merci beaucoup, Oscar.
Pas de souci, merci à vous.
Alors, pour la suite des programmes, restez sur Radio BLV. À 13h, vous allez pouvoir écouter l'émission Innove Jeune, le portrait de jeunes qui réalisent des projets dans la Drôme. Et cette fois-ci, on va entendre un couple qui est parti en Amérique latine pour réaliser un projet documentaire sur l'eau. Voilà, ça va être très intéressant. Et puis à 17h, la radio dans le pédalo, le magazine Environnement de Radio BLV, c'est la rediffusion de ce matin. On a parlé Assemblée populaire aujourd'hui. À 18h, vous pourrez réécouter cette locale. À 19h, Les voisins d'à côté, l'émission donc musique et fiction que vous aimez bien. Et à 20h30, retrouvez Thierry pour le direct de l'oreille électrique.
Et puis à venir, parce que demain c'est férié et donc il n'y aura pas de direct. Par contre, on vous propose demain de retrouver entre demain et dimanche une série de trois podcasts réalisés par le Centre du patrimoine arménien et une association sur Givor autour d'une exposition collective, d'un projet d'exposition collective avec un photographe et deux groupes. Un groupe de personnes de Givor et un groupe de personnes de Valence, ça s'appelle Nos Nouvelles Frontières. Il y a eu trois podcasts réalisés. On vous propose de découvrir le premier demain à 11h, qui est un entretien avec Guillaume Herbeau, le photographe. Le second podcast vous sera proposé demain à 17h. Et c'est un journal de bord un petit peu de cet événement, de cette création. Et le dernier podcast, le troisième podcast, vous le retrouverez à 12h30 dimanche. Donc, Nos Nouvelles Frontières avec la chercheuse dont j'ai perdu le nom. J'ai égaré mes notes. Mais en tous les cas, ces trois podcasts, et puis vous le retrouvez sur Instagram ou sur Facebook, vous retrouverez l'annonce de ces trois podcasts qu'on a plaisir à diffuser.
Merci beaucoup Sylvie et puis rendez-vous pour la locale la semaine prochaine à
Absolument.
Partir de mardi.
Et à 11h mardi, l'invité de 11h et quelques avec les vires volantes nos conteuses dromoises. Donc tendez l'oreille, elles vont vous faire entendre notamment le souffle des mers.
Oh, ça fait rêver. Bonne journée à tous et à toutes.
Au revoir.